Le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine du dimanche. Nous parlerons du sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à Kampala, mais aussi de la réaction de la MONUSCO face au recrutement des enfants par le M23 et les autres groupes armés opérant dans l'est du pays. Nous allons décortiquer pour vous également quelques concepts avec un expert de la FAO. Nous allons essayer de comprendre le concept agroforesterie, mais aussi d'autres termes liés à ce dernier. Et notre invitée du jour, c'est Alessandra Dantis. Elle est responsable du programme protection de l'enfant à l'UNICEF. Avec elle, nous parlerons du rapport mondial 2012 sur l'aide humanitaire rendu public le week-end dernier. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci d'écouter ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. L'actualité de cette semaine reste tournée vers l'est du pays. Nous revenons d'abord sur le sommet extraordinaire de la CIRGL à Kampala, en Ouganda, auquel a participé mardi dernier le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Roger Miss estime que ce sommet qui traite de la situation à l'est de la RDC est très important pour la RDC, mais aussi pour toute la région. Il déclare qu'il va travailler avec toutes les parties pour la mise en œuvre des résolutions de ce sommet qui s'est clôturé mercredi dernier. Ces propos sont recueillis par Gisèle Tage.
C'est un sommet important pour le Congo, pour toute la région. Certainement, comme tout le monde, je souhaite que les membres États de la CIRGL vont arriver à quelque chose d'important, fructueux, utile pour la résolution le plus rapidement possible à la crise qui est évidemment là actuellement pour le pays. Nous restons toujours en contact permanent avec les autorités congolaises, non seulement pour la mise en réalisation des résultats du sommet, mais effectivement pour dans tous les partenariats que nous avons et le travail quotidien, y compris la situation, notamment à l'est actuellement. Donc, ça, c'est un partenariat et des contacts prominents que nous avons.
Et s'agissant toujours de l'est de la RDC, sachez justement que sur terrain, le M23 et les autres groupes armés opérant dans ce coin du pays recrutent de manière forcée les enfants et les jeunes adultes. Le porte-parole de la MONUSCO l'a confirmé au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies tenue ce mercredi. Des rapports de la mission onusienne comptent déjà plus de 100 cas de recrutement d'enfants. Manu Djemounoubaï appelle tous ces groupes armés à cesser ces pratiques, sinon le Conseil de sécurité prendra des mesures consécutives. Les propos du porte-parole de la MONUSCO sont recueillis par Jean-Pierre Elali.
Dans un communiqué de presse sorti hier, M. Miss a dit, et je cite, « Utiliser des enfants et des jeunes adultes dans le conflit armé ne peut que créer des générations formées à la violence et déchirer le tissu social congolais. » Il appelle aussi le M23 et tous les autres groupes armés à cesser immédiatement cette pratique. Puisque nous lançons un appel au M23, nous demandons au M23 de se désarmer, nous demandons au M23 de cesser toute activité sur le sol congolais. Dans tous les cas, le moment venu, et si le M23 s'entêtait à continuer dans ses activités militaires, je pense que le moment venu, le Conseil de sécurité prendra une décision et nous allons nous aligner sur la décision du Conseil de sécurité.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La Banque africaine pour le développement a octroyé 6 millions d'euros à la RDC pour le compte du Fonds pour les forêts du bassin du Congo. Ce fonds va servir au développement de l'agroforesterie en RDC. Agroforesterie, que signifie ce concept? Voilà la principale question à laquelle répond un expert de la FAO au micro de Jean-Pierre Elali.
Monsieur Gilbert Atanda, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Pierre Elali.
Vous êtes chargé du programme UNRED FAO. La Banque africaine pour le développement vient d'octroyer 6 millions d'euros à la RDC pour le compte du fonds pour les forêts du bassin du Congo. Et ce fonds va servir au développement de l'agroforesterie en RDC. Vous êtes donc expert dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie, Monsieur Atanda?
L'agroforesterie, en fait, c'est un concept, une technique qui consiste à gérer durablement le terroir. Donc, ça constitue un travail qui consiste, disons, à planter les arbres avec les cultures pour que puissent utiliser les cultures vivrières notamment et que les cultures pérennes notamment et les essences forestières vont bénéficier de mêmes avantages d'entretien et pour une gestion durable de ces terroirs.
Est-ce que cette pratique culturelle existe en RDC ou bien c'est une innovation?
Si, ça existe en RDC. On peut prendre des exemples éloquents. C'est au niveau du plateau de Bateke, dans les domaines de Mapou, puis Kadim et Mbakana. Puis on peut ajouter, aujourd'hui, il existe un puits de carbone à Ibi. Ce sont des exemples éloquents qui montrent, qui valorisent ces concepts de l'agroforesterie.
Est-ce qu'il y a une différence entre ces concepts, donc l'agroforesterie et la foresterie tout court?
Oui, il y a des différences et puis il y a des nuances aussi. Quand on parle de foresterie, tout court, là c'est dans le domaine des forêts. Évidemment, ça consiste à pouvoir travailler dans la forêt. On peut faire aussi des aménagements, donc de plantations ou de replantations dans les forêts. Dans le domaine de l'agroforesterie, évidemment, comme il y a la terminologie agro, c'est agriculture plus foresterie. Et donc là, on associe les cultures vivrières, donc les cultures agricoles, avec la forêt. Donc à partir des essences forestières qui sont plantées. Donc cet ensemble qui constitue ce concept d'agroforesterie.
Vous avez parlé de Imbila. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-bas?
Le projet Ibi Bateke, c'était projet dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un travail qui consiste notamment à pouvoir planter les essences forestières pour stocker le carbone. Donc en stockant le carbone, ça réduit les émissions au niveau de l'atmosphère. Donc il y a vraiment toute une filière qui est développée au niveau de Ibi Bateke, à partir de la plantation, le traitement, jusqu'à la fabrication de la farine, aide les populations environnantes aussi de pouvoir adopter le même système.
Donc on parle plutôt également du sylvopastoralisme. Est-ce que au niveau des Imbi, on peut envisager cela? Qu'est-ce que cela signifie, ces concepts?
Oui, le concept de sylvopastoralisme, c'est un concept similaire. Et on pourra d'ailleurs plutôt parler de l'agro-sylvopastoral, donc, qui consiste à ce moment-là de combiner la sylviculture avec l'élevage et aussi avec l'agriculture. Donc nous n'avons pas ces cas à Ibi particulièrement, mais au niveau du projet Kadim Mbakana, toujours dans le plateau de Bateke, au moins on associe l'élevage avec l'agriculture et aussi avec l'agroforesterie. Donc là, c'est un cycle qui est constitué, puisque aussi les déchets les excréments des vaches fertilisent encore le sol et ça permet à ce que on puisse avoir un système intégré pour un développement, quoi.
C'est formidable. Et à part Bankana et Imbila, est-ce que des expériences comme ça, il y en a à travers la République démocratique du Congo?
Je n'en connais pas trop, mais est-il que dans des espaces comme le Kivu, cette pratique peut être intéressante dans le sens qu'il y a beaucoup de pasteurs là-bas, c'est-à-dire l'élevage est très développé. Il suffit que cette pratique d'élevage soit associée à l'agroforesterie. Je pense que ça peut donner de très bons résultats.
Quel est l'apport de l'agroforesterie dans les changements climatiques, notamment la dégradation du sol et de l'économie verte? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces trois éléments?
Oui, effectivement, il y a un rapport, il y a même un lien direct, puisque la pratique de l'agroforesterie, en plantant les arbres, ces arbres vont stocker le carbone de l'atmosphère, ce qui réduit les effets du changement climatique. Et aussi, comme généralement ces essences sont des légumineuses, ça permet la protection des sols, et même aussi à fertiliser les sols. Et pendant que les arbres sont en train d'accroître, ces arbres vont être exploités pour constituer une filière de bois énergie où on peut fabriquer de la braise et qu'après un certain temps, on va faire une rotation.
Oui, monsieur Lesper, venons un peu dans ces cas en République démocratique du Congo. Quels sont les avantages que peut procurer l'agroforesterie?
Évidemment, si on voit bien, la RDC c'est un pays forestier, mais plutôt il y a d'autres écosystèmes qui existent, c'est-à-dire des savanes ou des zones où il n'y a pas assez de forêts. Et la pratique de l'agroforesterie, c'est une pratique qui pourra aider ces espaces-là à pouvoir donner des revenus aux populations par ces pratiques de l'agroforesterie avec les cultures qui seront associées avec les arbres. et ces arbres effectivement vont servir de piliers pour réduire les émissions en stockant le carbone dans l'atmosphère et puis de pouvoir permettre à ce que ces populations qui vont réaliser ces activités vont bénéficier des résultats de l'agriculture et aussi des bois énergie à partir des essences qui sont plantées.
Comment on peut les impliquer, impliquer les paysans et les agriculteurs dans le développement de l'agroforesterie en RDC? Est-ce que vous avez quelques expériences là-dessus?
Bon, au fait, ce que nous devons savoir est que les populations, les communautés, les agriculteurs ont une certaine habitude dans les activités qu'ils mènent déjà. Et donc, pour arriver à intégrer, à apporter une innovation, parce qu'effectivement, l'agroforesterie est une innovation dans les entités ou dans les espaces où elle n'est pas pratiquée, il faudrait commencer par une sensibilisation. Donc, aujourd'hui, nous devons d'abord sensibiliser la population en rapport avec les conséquences même du changement climatique.
Et c'est avec ces termes-là que nous terminons notre entretien et je vous remercie, Monsieur Atanda.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Pour les nouvelles en plus bref, nous commençons par l'Ituri où les acteurs humanitaires se mobilisent contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. D'après l'OMS, cette maladie a fait son apparition en juillet dernier en Ouganda voisin et a déjà occasionné 14 décès sur les 20 cas confirmés dans ce pays. Et puis ce cri de détresse de plus d'une centaine de réfugiés angolais vivant au Katanga. Ils déplorent leurs mauvaises conditions de vie et en appellent à l'intervention des autorités angolaises et congolaises, ainsi que le HCR, signalant que la plupart de ces réfugiés ont vendu leurs biens et maisons au lendemain de la clause de cessation qui annonçait la fin des opérations de rapatriement des réfugiés angolais en RDC au 30 juin 2012. Ils déclarent n'avoir qu'un seul souhait, retourner dans leur pays. Parlons aussi de cette série de communications suivie des débats organisés vendredi 10 août dernier au sein de l'Université protestante du Congo. Cette initiative du CNUD était à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Ces communications animées par d'éminents professeurs d'université portaient sur la politique nationale pour la jeunesse et la problématique de l'emploi des jeunes. Un autre atelier, c'est celui financé par la MONUSCO sur la sécurisation du cycle électoral 2011-2013. Tenu à Kinshasa du 2 au 4 août dernier, ces assises avaient pour objectif de porter un regard rétrospectif sur la sécurisation des scrutins du 28 novembre 2011 en RDC en vue de corriger les dysfonctionnements et d'assurer la sécurisation des élections à venir. Et c'est la dernière nouvelle en bref de cette édition. Place à présent à l'invité de notre magazine.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le rapport mondial 2012 sur l'aide humanitaire a été rendu public le week-end dernier. Il fait référence à des données récentes pour présenter une évaluation globale de la réponse financière à l'aide humanitaire. Dans ce studio, nous en parlons avec la responsable du programme Protection de l'enfant à l'UNICEF, Madame Alessandra Dantis. Bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, par rapport à la situation humanitaire en RDC, que dit exactement ce rapport ?
Le rapport montre qu'il y a toujours une situation d'insécurité qui prévaut, malheureusement, et qui donc a un impact sur la vie des populations, y compris évidemment les femmes et les enfants. La situation d'insécurité prévaut pas simplement à l'Est, mais il y a aussi des poches d'insécurité, par exemple dans le nord Katanga, aussi en province orientale. Disons qu'en général, les populations les plus vulnérables sont affectées d'une part à l'autre de la RDC et par la situation de conflit, mais aussi par d'autres urgences, comme par exemple la question de la malnutrition, qui affecte beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, surtout dans les provinces qui sont un petit peu oubliées, comme le Kasaï occidental et le Kasaï oriental.
Précisément, qu'est-ce que l'UNICEF apporte comme aide ?
La réponse de l'UNICEF s'articule autour de quatre grands secteurs. La survie, y compris la nutrition, ce qui est eau et assainissement, la protection de l'enfant et l'éducation. Donc, on essaye d'abord d'intervenir en coordonnant les interventions de tous les partenaires. En fait, l'UNICEF, d'un point de vue institutionnel, gère les clusters éducation, le cluster bien non alimentaire, le cluster nutrition et le groupe de travail protection de l'enfant.
Donc, c'est quoi concrètement?
En fait, c'est des groupes qui sont composés par tous les acteurs humanitaires, donc les agences des Nations Unies et les organisations de la société civile, les ONG nationales, internationale.
Est-ce qu'aujourd'hui l'UNICEF estime que l'aide apportée aux populations frappées par les crises humanitaires en RDC est positive? Si oui, quelles sont les solutions apportées concrètement par l'UNICEF?
Bon, bien sûr, c'est positif. Voilà, on peut prendre un exemple, celui de la protection de l'enfant. Dans les zones, par exemple, de déplacement, à l'est de la RDC, l'UNICEF a établi ce qu'on appelle des espaces d'amis d'enfants. Les espaces amis d'enfants sont des espaces, par exemple, sous des tentes, dans des structures, soit tendues ou improvisées, peu importe. Mais c'est des espaces dans lesquels les enfants peuvent jouer. Donc peuvent en fait reprendre un peu cette vie d'enfant qu'ils ont dû laisser de côté pendant la période de déplacement. Donc il y a des assistants sociaux qui peuvent donner un certain appui psychosocial aux enfants, qui peuvent parler par exemple de leur trauma ou de leurs problèmes au niveau de la communauté, au niveau de leur famille. C'est donc des espaces sécurisés où l'enfant peut reprendre sa vie d'enfant. On explique par exemple quoi faire en cas de déplacement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quoi faire en cas de déplacement?
Mais par exemple, les enfants peuvent être attachés avec des cordes à leurs parents. Ça, c'est un exemple tout simple, mais qui permet en fait aux parents de ne pas perdre de vue les enfants. On essaye aussi de mettre en place des systèmes au niveau communautaire. Donc, voilà. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un cadre qui aide à retrouver, à retracer les familles des enfants.
Seuls les enfants sont bénéficiaires de cette aide ou d'autres catégories de population aussi?
Bon, disons, les espaces amis d'enfants, c'est des espaces qui sont conçus pour les enfants. Mais les autres interventions d'urgence ciblent en fait toute la population concernée. Surtout évidemment la partie la plus vulnérable de la population, les femmes et les enfants. Mais c'est toutes les populations déplacées qui bénéficient par exemple des interventions en bien non alimentaire. Donc on essaye de renforcer tout ce qui est dispositif d'urgence pour les soins de santé, les soins donc les soins de santé primaires, mais aussi par exemple des soins spécifiques au cas où il y ait des survivants de violences sexuelles. Donc l'accès aux PEP kits dans les 70 heures, accès au tout ce qui est...
C'est quoi les PEP kits?
Les PEP kits, en fait, c'est des kits d'urgence de médicaments sont donnés avec certains dosages par rapport au poids, par rapport à l'âge, aux survivants de violences sexuelles pour essayer d'éviter l'infection du VIH-Sida.
Ok. Parlez-nous un peu des difficultés rencontrées par l'UNICEF dans l'acheminement de l'aide humanitaire.
Bon, pour l'instant, dans les zones qui sont affectées par le conflit, il y a évidemment une difficulté d'accès. Donc, il y a certaines zones où on n'a pas d'accès. On monitore tous les jours. Il y a par exemple des zones qui étaient très proches des zones de conflit où on avait des centres de transit pour les enfants qui ont été démobilisés des forces et groupes armés. On a dû délocaliser ces centres de transit, donc ce qui a un coût et au niveau évidemment financier, mais aussi au niveau de la logistique. Mais il y a aussi des problèmes qui vont au-delà du conflit contingent et donc des problèmes qui sont beaucoup plus structurels. Par exemple, le mauvais état des routes.
Et puisque vous connaissez ces difficultés, est-ce que vous prenez des précautions pour les prochaines opérations?
On a un système d'alerte précoce qui nous dit quelles sont les situations à éviter ou les zones à éviter. Ceci dit, c'est une situation qui est très volatile et qui change au jour le jour. Donc, il faut être très à l'écoute aussi de la communauté parce que c'est la communauté, évidemment, qui nous donne les informations. mais aussi on essaye d'être à jour au niveau des informations par rapport à qui peut intervenir dans quelle zone. Pas tous les partenaires sont dans la même zone. Donc, en renforçant cette coordination, on essaye aussi d'être plus efficient au niveau de notre travail sur le terrain.
Madame Alessandra Dantis, je rappelle que vous êtes la responsable du programme protection de l'enfant à l'UNICEF. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Place à présent à l'actualité dans nos provinces. En route vers le Nord Kivu pour la nouvelle de province, plus de 200 000 personnes déplacées ont besoin urgemment d'assistance. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des questions humanitaires l'a déclaré mercredi dernier. Valérie Amos revenait d'une visite sur les sites de Tanyaruchinya, non loin de Goma, où sont actuellement concentrés les déplacés de guerre venus du territoire de Rutshuru. Gabriel Waminia nous raconte.
Ces déplacés de Kanyaruchinya sont estimés à plus de 30 000 personnes. Pas d'abri ni installation hygiénique, moins encore de nourriture et de l'eau potable. Les conséquences sur le plan sanitaire se font déjà sentir. Au moins 6 enfants sont morts de diarrhée, tandis que d'autres souffrent de paludisme aigu. Cette situation exige des humanitaires et une réponse immédiate, affirme Mme Valérie Amos.
On s'est quand même rendu compte qu'il y a beaucoup trop de personnes en train de s'échapper, en train de se déplacer. Ces personnes déplacées-là sont en train de montrer une certaine nécessité urgente d'être soutenues dans ces camps des déplacés où ils sont.
De leur côté, les déplacés estiment que l'assistance ne suffit plus. Ils exigent de la communauté internationale l'instauration d'une paix durable pour leur permettre de rentrer dans leur village d'origine. On écoute cette déplacée.
Nous demandons pour que vous, les autorités, vous plaidiez pour nous. C'est pour que nous rentrions chez nous afin que nos enfants étudient au lieu de rester dans les rangs. C'est ce qui n'est pas bon.
Notons que quelques organisations internationales ont commencé depuis la semaine dernière à apporter leur assistance à ces déplacés. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis Timéon Anama, je suis responsable de la nutrition pour l'UNICEF en RDC. Je suis originaire de Burkina Faso. J'ai commencé mes études au Burkina Faso. Je fais d'abord un doctorat de technologie alimentaire à l'université de Ouagadougou. Et ensuite, je suis allé faire un PhD de nutrition aux États-Unis. Sur le plan professionnel, j'ai commencé à travailler comme coordinateur pour l'Afrique de l'Ouest d'une ONG qu'on appelle l'Initiative pour les micronutriments. J'ai décidé de joindre l'UNICEF au Tchad. Je suis resté au Tchad de 2006 à 2008 et en fin 2008, j'ai rejoint l'UNICEF à RDC. La chose qui m'impressionne le plus ici, sur le plan professionnel, c'était de voir cette contradiction un peu flagrante entre un pays qui, d'apparence, a toutes les ressources alimentaires, naturelles, etc., mais qui, parallèlement à ça, présente des taux de malnutrition qui sont à des niveaux assez élevés. En dehors donc du côté professionnel, j'ai surtout aimé le caractère paisible des Congolais. En particulier à Kinshasa, ils règlent toujours leurs problèmes de façon verbale. Et je trouvais que ça c'était quand même quelque chose d'assez original et qui témoigne donc du caractère pacifique de cette population. Oui, la musique, j'écoute bien, j'aime bien la rumba congolaise. Comme je ne comprends pas Lingala, j'ai des difficultés. C'est au moment où la chanson passe que je me dis, ok, cette chanson je connais, mais c'est difficile à brûle pour point de sortie, une chanson comme ça. Bon, j'ai deux musiciens en particulier sur lesquels j'ai des difficultés à choisir, en l'occurrence Ferré et Pifali Poupa. C'est plus le côté ambiance. Je vois, c'est une ville qui, en dépit de tous les problèmes que le pays a connus, reste vivante. Comme je disais, les gens sont chaleureux et puis très pacifiques. Je passe le plus clair de mon temps à jouer au billard, alors je ne pourrais pas me prononcer sur les autres aspects que vous avez mentionnés. Ça fait déjà 4 ans que je suis là. Si je pouvais avoir une contribution significative à la construction d'une stratégie qui va permettre de contrôler la malnutrition de façon durable en RDC. Ce serait, je pense, pour moi, une réalisation importante.
À vous de vous exprimer à présent dans votre magazine.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle Benoît Kilumbu, enseignant dans une école primaire de La Place. J'ai suivi dans la presse une information sur les massacres des Okapi dans la réserve naturelle des Poulou, en Ituri, qui serait l'un des patrimoines de la RDC. Alors une question me revient depuis, celle de savoir quels sont les patrimoines de la RDC considérés comme les patrimoines de l'humanité et que fait l'UNESCO pour les sauvegarder ou les entretenir.
Merci Monsieur Benoît, nous avons joint pour vous le chargé du programme de communication et information à l'UNESCO Kinshasa, Monsieur Joseph Potopoto vous répond.
Merci Madame, merci à Monsieur Benoît qui nous pose la question depuis l'Ituri. La RDC a 5 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'abord du parc national de la Garamba, qui est situé en province de orientale. Le parc national de Virunga dans le Nord Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega également dans le Nord Kivu. Il y a le parc national de la Salonga qui va, je crois, entre l'Équateur et la province orientale. Et enfin, il y a la réserve des faunes à l'Okapi, cette réserve qui a fait l'objet de l'attaque de braconniers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces sites de la RDC sont déclarés sites en péril. Alors quand un site est déclaré en péril, c'est que sa protection est pratiquement en danger. Voilà un peu le sens de site en péril. Alors, en ce qui concerne les sites des Okapi, il faut dire que et les sites, la réserve de faune des Okapi et le parc national de la Salonga sont placés sous un programme de stratégie d'action pour lutter contre le braconnage. Et ça, c'est le travail que fait l'UNESCO et aussi d'autres associations qui travaillent dans la préservation de tous ces sites-là. On essaie de protéger les sites, on essaie de mobiliser les efforts, on essaie de mobiliser les attentions pour que ces sites-là soient protégés. Et il n'y a pas que nous finançons à travers le bailleur, hein. Il y a des bailleurs aussi qui interviennent, qui de temps en temps financent, et l'UNESCO participe aussi à la mise en œuvre de certains projets qui touchent à la protection de ces sites-là. Donc voilà un peu comment l'UNESCO intervient pour la protection de ces sites. Et j'ajouterai peut-être pour terminer que pour le site de la réserve à Fauna Okapi, il y a un appel de fonds qui a été lancé pour qu'on puisse reconstruire non seulement les bâtiments qui ont été saccagés, mais aussi essayer de restaurer le site. Il faut dire qu'il y avait 15 Okapi qui étaient dans la réserve, mais il y en a aussi plus de 5000 qui sont dans les forêts là. Et si peut-être on arrivait à capturer 2 ou 3, on pourra peut-être relancer le site.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
La journée mondiale de l'action humanitaire, c'est le 19 août prochain. À l'occasion, des activités sont prévues ici à Kinshasa ce vendredi 17 août, notamment un débat avec les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication au sein de leur institution, ainsi qu'une visite des stands scènes de différents secteurs de l'action humanitaire. Voilà le seul rendez-vous à noter pour aujourd'hui. Et bien voilà, ainsi s'achève ce 30e numéro de votre magazine. Sous la supervision de Nicole Ngakamadidi, Jean-Pierre Elali l'a coordonné. À la présentation, c'était Mireille Bukasa Mutendi. À 19h03, heure de Kinshasa, vous pouvez réécouter cette émission qui sera rediffusée. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.